Voici les titres du journal.
Les fortes intempéries qui ont démarré hier soir ont eu des conséquences dans le Chablais vaudois, le Pays d'en Haut et sur la Riviera. La partie valaisanne de la région est-elle épargnée pour l'heure? Les autorités demeurent vigilantes. Elles appellent aussi la population à la prudence. Le point dans un instant avec Yves Terrani. Une mini-série cinématographique en 7 épisodes dont le tournage commence aujourd'hui dans le Chablais, c'est Festival. On vous en parle dans ce journal en compagnie du réalisateur Niels Martenet et de son assistante Félicia Baillifard. Depuis 2 ans, Saint-Gingolph France organise les festivités du 14 juillet, le 13 juillet. Et cette année, une particularité est au programme puisque les réjouissances auront lieu du côté suisse de la frontière. En hockey sur glace, la patinoire de Villars et le théâtre cette semaine du premier Chablais Hockey Camp. Une 50aine de jeunes joueurs âgés de 10 à 16 ans profitent de ces quelques jours pour peaufiner leur bagage technique.
Et pour la météo, beaucoup de nuages et de la pluie pour cet après-midi. Pour demain, le temps sera changeant. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Isabelle Bertolini. Bonjour Isabelle.
Bonjour Axel et bonjour à tous. Le canton de Vaud n'est pas épargné par les intempéries qui ont commencé hier soir. Une dizaine d'opérations sont en cours dans le Chablais vaudois, le Pays d'en Haut et sur la Riviera. Mais bonne nouvelle Yves Terrani, il n'y a pas eu de blessés jusqu'ici, ni d'évacuation de la population d'ailleurs.
En effet, c'est, vous l'avez dit Isabelle, une bonne nouvelle. Il reste que la police cantonale vaudoise a enregistré de nombreux signalements, nous a confié ce matin l'une de ses porte-paroles, Florence Frey.
Et dans le détail, ça donne quoi?
Alors ça donne des grilles d'évacuation des eaux qui ont été arrachées sous la force du ruissellement dans plusieurs localités. C'est le cas par exemple à Aigle où un passage sous voie a été inondé. Sinon de nombreuses routes ont été obstruées par des coulées de boue, de pierre ou de gravats à vers l'église et au CP notamment, mais aussi à Baie, Veto, de même qu'entre les Avants et Montreux où un ruisseau est sorti de son lit charriant cailloux et boue sur la chaussée. Et puis on vient de l'apprendre des autorités. Le col de la Croix entre Villars et les Diablerets est fermé en raison d'un éboulement.
Des arbres sont aussi tombés.
Sur la route AB, un autre sur les hauts de Montreux et un a chuté sur 2 véhicules à roulant. Fort heureusement, ces 2 véhicules n'étaient pas occupés.
Curieusement, le Chablais valaisan, lui, est épargné pour l'instant.
Bah oui, pour l'instant en tout cas. Selon Glenn Martinier, le chef du service de la sécurité publique de la ville de Monté, seules 3 inondations ont été enregistrées chez des particuliers entre Colombey et Massonger. Mais la surveillance des cours d'eau est en cours. Les cours d'eau qui, du point de vue de l'intéressé, se comportent bien jusqu'ici. Donc, rien de grave. La nappe phréatique, cependant, se gorge gentiment. L'organe cantonal valaisan de conduite a émis de son côté une alerte d'intempéries ce matin à l'intention des états-majors de conduite pour le Rhône et les cours d'eau latéraux. La situation est donc analysée en continu. Pareil d'ailleurs hein, dans le Chablais vaudois, le Pays d'en Haut et sur la Riviera, d'autant plus que même si l'on note une accalmie depuis un moment et même à l'apparition tout à l'heure d'un rayon de soleil, de grosses quantités d'eau sont encore attendues jusqu'à ce soir.
L'occasion Yves de rappeler quelques règles de sécurité élémentaires.
Et notamment qu'en cas de grosses intempéries, il y a lieu de limiter les déplacements, de ne pas s'approcher des cours d'eau, de ne pas se balader en forêt, de renoncer à filmer ou photographier les événements et enfin de se conformer strictement aux ordres des autorités.
Eh bien, merci Yves Terrani. D'ailleurs, la police vaudoise nous a informé qu'elle ferait un point de situation très bientôt. On aura des nouvelles un petit peu plus précises au début de l'après-midi. Un détenu a perdu la vie à la prison de Sion. Un agent l'a découvert hier matin, inanimé dans sa cellule. Il a immédiatement entrepris une réanimation jusqu'à l'arrivée des secours. Malgré leurs efforts, ces derniers ne sont pas parvenus à le réanimer. La victime, âgée de 45 ans et domiciliée en Valais, est décédée sur les lieux. Une enquête a été ouverte par le ministère public pour établir les circonstances de ce décès.
Du délire et encore du délire.
On peut voir ainsi la mini-série cinématographique intitulée Festival, dont le tournage débute aujourd'hui dans le Chablais. Sous le nom de l'association Les Larbins, Niels Martenet, Félicia Baillifard et Loïse Bakem ont uni leurs forces pour écrire le scénario de Festival. Un projet dont l'objectif numéro 1 est de donner de la visibilité aux artistes de la région qui ont été grandement pénalisés par la pandémie, comme nous l'explique le réalisateur, le montaisan Niels Martenet.
En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné cet élan-là, parce que c'est justement toutes les autres fictions que j'ai voulu faire auparavant. J'arrivais pas à me dire, ok, les gens vont vouloir me suivre, et je voyais pas pourquoi j'aurais cette légitimité-là. Jusqu'à ce moment-là où je me suis plutôt dit, bon, bah, c'est l'opportunité de créer enfin un projet qui va rassembler, qui va faire bouger un peu tout le monde, et qui va donner envie de créer à nouveau.
On va pas dévoiler le contenu, bien sûr, mais si on doit résumer l'histoire, on dit quoi?
C'est l'histoire d'un jeune réalisateur montaisan. On le suit au fil de ses aventures avec ses amis, ses aventures qui passeront par des endroits culturels comme le Crochetan, comme le Pont Rouge. Dans cet univers-là, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que chaque personne a un bocal pour déverser ses émotions. Voilà, c'est un peu un univers parallèle au nôtre. Dans tout ce fouillis, on va découvrir dans un des épisodes qu'il y a un des bocals qui est différent et qui crée quelque chose de différent. Et c'est là un peu le début de toute notre histoire.
Une sacrée aventure. Vous avez fait confiance à des acteurs du coin, presque tous viennent d'ici ou en tout cas pas très loin.
Exactement, et ceux qui habitent plus ici habitent à Genève parce qu'ils font des formations de théâtre. Ils sont tous en tout cas originaires d'ici ou ils habitent encore dans la région. Ouais. Pour moi c'était important de faire du régional parce que de nouveau on veut surtout montrer qu'à côté de chez nous il y a plein de talents.
Et vous avez aussi décidé d'intégrer les arts vivants, picturaux, il y aura quoi en plus alors?
Dans certains clips, il y aura évidemment de la danse, il y aura de la mise en scène, il y aura du théâtre, il y aura des circassiens qui vont venir faire des performances aussi. Notre premier épisode, par exemple, la dernière chanson, c'est une chanson de comédie musicale. Vraiment, on utilise les clichés de comédie musicale. Et là-dedans, on va utiliser tous les talents qu'on a à disposition, des danseurs, des circassiens qui vont nous faire des magnifiques acrobaties pour faire quelque chose de très spectaculaire. Pour les arts graphiques, on a contacté quelques artistes de la région, toujours, qui vont nous faire quelques tableaux, quelques pièces qu'on va pouvoir intégrer dans les décors de notre série pour rajouter du détail, rajouter de la profondeur à notre propos.
Est-ce que ça a été facile d'écrire une série de 7 épisodes avec un bazar pareil?
Facile, non? Oui et non, en fait, parce que c'est compliqué de trouver une logique, d'être fidèle à son fil rouge, d'être fidèle à son idée. Mais par contre, c'était super facile parce que j'étais entouré d'une équipe fantastique, justement avec Félicia Baïfar et puis Loïs Bachem. Et pour ça, c'était vachement intéressant. Et on continue de creuser et on continue tous les jours d'apporter de nouvelles choses.
Futur élève d'une école de théâtre professionnelle genevoise, Félicia Baïfar assistera donc Nils Martenet à la réalisation. Et elle ne cache pas que l'équipe va probablement s'éclater sur le tournage de festival.
Ah, complètement, bien sûr. Déjà, je trouve, à titre personnel, qu'on s'est déjà beaucoup amusé à l'écrire, même si il a fallu rester cohérent, donc c'était sérieux. Mais c'était déjà super de pouvoir avoir plein d'idées qui foisonnent et les mettre ensemble. Et puis oui, le tournage, je me réjouis vraiment, vraiment, et je suis sûre que ça va être énormément de travail, mais ça va être super et que du plaisir.
Qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce tournage et dans cette aventure?
Je pense que ce que je crains le plus, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'organisation, parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur ce projet, que ce soit des groupes de musique, les comédiens, comédiennes, etc. Ils sont super sympas à nous donner leur temps bénévolement et ça me fait peur honnêtement de leur prendre trop de temps. Et nous, c'est un projet qui est tout nouveau pour nous, du coup de ne pas réussir à bien s'organiser, de ne pas être efficace et de les faire attendre trop longtemps alors qu'ils sont déjà super sympas à nous donner leur temps.
Précisons que si tout se passe bien, la série devrait apparaître dans les cinémas en février de l'année prochaine et vous dire encore que l'équipe qui se lance dans ce projet cherche toujours du financement. On peut la joindre au 076 404 20 07 ou par mail à festival.série@gmail.com. C'était un sujet, encore une fois, de Yves Terrani.
Et dès demain, les feux d'artifice se retentiront un peu partout en France à l'occasion de la fête nationale.
Certaines communes choisissent pourtant de célébrer avec un jour d'avance. C'est le cas à Saint-Jean-Golf, une décision qui vise notamment à ne pas se retrouver en concurrence avec d'autres villes comme Évian-les-Bains, dont les feux illuminent le Léman chaque 14 juillet. En plus d'organiser cette fête un jour plus tôt, une autre variante est prévue pour cette édition 2021. Explication de Géraldine Pfliger, maire de Saint-Jean-Golf.
Cette année, ça va être effectivement très particulier car vu les intempéries et le fait que notre salle des fêtes est en travaux, on a eu l'accord tout à fait sympathique de la commune suisse de nous héberger dans sa salle polyvalente et donc tout va avoir lieu côté suisse pour la fête nationale française. Donc en digne gingolais, on se joue encore de la frontière. Et puis ça reste, comme les deux fêtes nationales, des moments de rassemblement pour le village, pour les Français, pour les Suisses et les Franco-Suisses. Et puis enfin, en 2021, pour cette année, il y a un point d'orgue, c'est qu'on va marquer l'inauguration de nos nouveaux quais, notre nouvelle promenade magnifique au bord du Léman qui a été complètement réaménagée et qui sera donc inaugurée le 13 juillet au soir.
Les réjouissances du 14 juillet se dérouleront donc à la salle polyvalente de Saint-Gingolf, Suisse, à partir de 19h30 ce soir.
Et Isabelle, les amateurs de tango argentin se réuniront cette semaine à Vevey et à la Tour de Paix.
Mais oui, la Riviera Tango Fiesta va en effet se tenir jusqu'à dimanche. Au programme, un atelier de tango pour musiciens, des concerts et des milongas, des soirées dansantes. Les organisateurs ont préféré renoncer aux cours pour cette 7e édition, un peu allégée donc, car encore et toujours, il a fallu s'adapter aux mesures en vigueur et composer entre le certificat Covid et le port du masque. Cédric Bassot, organisateur de la Riviera Tango Fiesta.
On a les deux modes au théâtre. Pour les concerts auditeurs, on est en mode sans passe Covid parce que c'est la politique du théâtre. Et donc, il y aura masque, distance et 2/3 de la jauge respectée. Et puis par contre, pour la danse, ce n'est pas un choix de notre part, on n'a pas le choix. Les manifestations dansantes, les activités dansantes, discothèques, salles de danse et tout ça, on est obligé de faire avec passe Covid. Donc ça veut dire le QR code vacciné, guéri ou bien un antigène à 48 heures. Et puis on a le contrôle à l'entrée, qui est fait à la caisse en même temps. Et puis du coup, à l'intérieur de l'enceinte, les gens, il n'y a pas de restrictions. Alors évidemment, on met en place les gels hydroalcooliques pour les mains, les gens sont assez bien aérés, tout ça, quoi. Ça reste. Mais en gros, on est assez, à part le pass Covid, qui est une grosse embûche, hein, faut dire la vérité, c'est presque pareil.
L'organisation de la Riviera Tango Fiesta a même mis en place un petit centre de test. Celui-ci sera tenu par des professionnels de la santé issus de la communauté des danseurs. Les concerts auront donc lieu mercredi et jeudi soir à l'Oriental de Vevey. Les soirées en extérieur et à l'intérieur se tiendront à la Tour de Paix autour de la salle des remparts. Un sujet de Joël Espy. Une collision est à l'origine du crash survenu dans les Grisons en juin dernier. Le planeur et l'avion à moteur retrouvé par les secours s'étaient percutés à une altitude de 3200 mètres. C'est ce que montre l'enquête. Les deux appareils s'étaient ensuite écrasés proche du point de collision. L'accident avait fait 5 morts, dont un enfant de 6 ans. Et pas encore de retour à la normale pour le trafic routier sur l'autoroute de Gothard. Il reste perturbé en direction du nord aujourd'hui, au lendemain de l'incendie d'un semi-remorque dans le canton d'Oury. Les véhicules ne peuvent circuler que sur une piste et cela jusqu'à mercredi au moins. Les dégâts causés par les flammes à l'infrastructure routière doivent d'abord être analysés. La parahôtellerie suisse souffre toujours de la pandémie. Elle a vu ses nuitées reculer au premier trimestre par rapport à l'an passé. De janvier à mars, quelques 3 millions de nuitées ont été enregistrées contre 4,35 millions en 2020. Les hôtes locaux représentent 90% de la demande, la faute aux restrictions de déplacement imposées par la pandémie.
Un peu de couleur dans la triste grisaille du jour.
Celle des fleurs des champs, Axel. Les paysans suisses sont invités à consacrer quelques espaces de leur culture aux bandes fleuries. 400 familles paysannes le font déjà en Suisse. L'Union suisse des paysans les y encourage. Une ferme modèle a été mise en évidence ce matin à Bollingen, près de Berne. Les bandes fleuries de l'été, de juin à août, ont 3 vertus. Elles accueillent les insectes pollinisateurs, favorisent la biodiversité et donnent une bonne image d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Et ça rapporte un peu d'argent aux agriculteurs aussi. 2500 francs à l'hectare. Écoutez Diane Gossin de la division environnement à l'Union suisse des paysans.
On voulait encore rendre attentive la population à cette action pour leur montrer justement qu'ils entreprennent beaucoup pour la biodiversité parce qu'il se fait beaucoup mais les gens n'en sont pas forcément conscients. Alors ça, il y a des mélanges spéciaux qui ont été conçus pour promouvoir soit les pollinisateurs soit les auxiliaires. Enfin, c'est pas totalement séparé mais disons qu'ils sont conçus de façon à ce que certaines plantes soient hôtes de certains insectes qu'on veut avoir. On a les insectes qu'on dit les organismes utiles qui peuvent permettre de combattre les ravageurs dans les cultures adjacentes et puis en parallèle les pollinisateurs comme par exemple les abeilles qui peuvent servir donc de pollinisateurs dans les culture annexe. Un mélange qui permet d'assurer une floraison sur 3 mois, donc la période qu'on dit creuse de l'année où les autres cultures ont passé leur floraison en fait, et parallèlement qui permet aussi à la population de se réjouir de ces fleurs qu'on peut voir dans le paysage à côté des cultures.
Propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin. Emmanuel Macron s'est taillé la part du lion dans l'audience des chaînes de télévision françaises. Hier soir, l'allocution du président a été suivie par plus de 22 millions de téléspectateurs, soit 85% de l'audience. Au cœur du discours, l'obligation prochaine de se munir d'un certificat sanitaire. Il sera nécessaire pour entrer dans les lieux de culture et de loisirs à partir du 21 juillet. Et dès début août, il sera obligatoire pour accéder aux cafés, restaurants, centres commerciaux et transports en commun. Et conséquences directes de cette allocution. Les rendez-vous pour la vaccination ont été pris d'assaut par la population française. Ce sont 20 000 rendez-vous qui sont pris toutes les minutes en France, selon le site de réservation Doctolib. Précisons d'ailleurs que le président français a également rendu la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact de personnes fragiles. Le bilan des violences qui frappent l'Afrique du Sud depuis plusieurs jours est passé à 32 morts. 22 morts supplémentaires ont été annoncées ce matin par les autorités. Les premiers incidents ont eu lieu vendredi passé avec des routes bloquées et des camions incendiés. Ils font suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Les violences touchent notamment l'agglomération de Johannesburg, plus grande ville et capitale économique du pays.
En Birmanie, Aung San Suu Kyi est de nouveau poursuivi pour corruption.
Assignée à résidence, l'ancienne chef du gouvernement de 76 ans était déjà inculpée pour sédition et pour corruption. Aujourd'hui, son avocat a déclaré aux journalistes qu'elle devrait répondre de 4 autres chefs d'accusation, toujours pour corruption. Le pays est en ébullition depuis le coup d'État du 1er février. Manifestations et grèves massives paralysent le pays. Plus de 890 civils ont été tués par les forces de sécurité ces derniers mois. Et des satellites peuvent être utilisés comme moyen de lutte contre la déforestation. C'est ce qu'a démontré une expérience menée par des chercheurs universitaires américains. Au Pérou, ils ont équipé plusieurs populations indigènes de smartphones et de données satellites afin d'intervenir en cas de déforestation dans leur secteur. Une expérience qui a permis d'épargner 456 hectares de forêt tropicale. Le président du CIO, Thomas Bach, a qualifié aujourd'hui Tokyo de ville haute, la mieux préparée de tous les temps pour les Jeux Olympiques. Des mesures draconiennes ont été prises comme l'instauration d'un huis clos total pour limiter les risques de propagation du Covid-19. À ce sujet, le patron du CIO a salué le travail remarquable effectué par l'ensemble des organisateurs, un travail qui devrait permettre la bonne tenue de ces Jeux. Pour rappel, les Olympiades doivent débuter dans 10 jours. Pour l'heure, la capitale nippone est à nouveau sous le régime d'un état d'urgence en raison de la pandémie.
En hockey sur glace, une cinquantaine de jeunes joueurs peaufinent leur technique cette semaine à Villars.
Privés de camps estivaux durant près de 15 mois, la station des Alpes vaudoises renoue avec son... de 15 ans d'ailleurs, je me disais que ça faisait long, mais en fait non, c'est ça. Privés de camps estivaux donc durant près de 15 ans, la station des Alpes vaudoises renoue avec son passé sous l'impulsion d'Alain Mermoz, responsable technique du HC Vallée Chablais Futur. Le premier Chablais Hockey Camp a pu voir le jour, encadré par 5 entraîneurs professionnels. Les hockeyeurs âgés de 10 à 16 ans ont droit à 6 jours d'entraînement varié sur glace mais aussi en dehors. Et pour rythmer les journées, ils peuvent aussi compter sur la présence de Villardoux qui se sont fait un nom sur la scène suisse. Les précisions d'Alain Mermoz.
Alors l'idée principale, c'était justement de faire revenir un petit peu les Villardoux à ce camp. Bon, ce camp a été pris un petit peu au dernier moment, donc on est 3 anciens Villardoux à être entraîneurs professionnels. Malheureusement, mes 2 autres collègues, Serge Volet et Marc Bastel, ne peuvent pas venir cette année parce que c'est vrai qu'on a des calendriers très chargés quand on est professionnel dans le hockey. Ils étaient enchantés. Serge a dû malheureusement se désister dernièrement. Mais par contre, on aura effectivement des hockeyeurs de Ligue nationale qui feront la surprise d'être là durant la semaine. Donc c'était un petit peu l'idée de faire venir des anciens Villardoux. Et du reste, il y a 3 entraîneurs de Villard qui ont passé par Villard ou qui sont de Villard qui seront présents sur ce camp cette semaine.
Ces personnalités du hockey Villardoux, elles sont sensibles à ces initiatives, on va dire ça comme ça, qui sont faites à la patinoire de Villard pour les jeunes hockeyeurs de la région?
Il faudrait leur demander, mais je pense que oui, parce que s'ils répondent par la présente, c'est qu'ils ils sont quand même touchés de ce qu'ils ont fait. En l'occurrence, c'est des jeunes que j'ai eus à l'époque. C'est des enfants, si vous veniez le mercredi après-midi ou le samedi ou le dimanche, ils étaient tout le temps à la patinoire, au patinage public. Donc Villard, c'est leur patinoire. Et puis, je pense qu'ils ont quand même... on reste toujours crochés à son passé, puis je pense qu'ils sont quand même sensibles à ça, oui.
À noter qu'après avoir fait le plein d'inscriptions cette année, le Chablais Hockey Camp pourrait se développer dans un futur proche. Alain Mermoz n'écarte pas l'idée de mettre une deuxième semaine sur pied. Un sujet signé Julien Traxel.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec les mines de sel de B et leur visite en soirée à la lanterne à la recherche des sources salées.
Un temps très nuageux pour ce mardi après-midi avec des pluies intermittentes en plaine, plus fréquentes en montagne avec des précipitations en toute région qui pourraient être localement abondantes. Une accalmie nous est signalée par Météo Suisse en fin de journée et la limite de la pluie-neige aujourd'hui s'abaissera vers les 2400 mètres. Il va faire au maximum 18 degrés cet après-midi en plaine, 14 à 1000 mètres. Pour demain, le temps sera changeant avec une alternance de brèves éclaircies et d'averses parfois orageuses et la limite pluie-neige va s'élever de 2500 à 2800 mètres d'altitude et il fera frais pour la saison, seulement 19 degrés en plaine, 16 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.